Chapitre 3. La tâche noire. Vers midi, je suis montée chez le capitaine, lui porter à boire et ses médicaments. Il était couché à peu près comme nous l'avions laissé, sauf qu'il s'était un peu redressé. Il semblait à la fois faible et excité. « Jim, m'a-t-il dit, tu es le seul qui vaille quelque chose, et tu le sais, j'ai toujours été bon avec toi. Je n'ai pas laissé passer un mois sans te donner 4 pence, pour toi tout seul. Tu vois, mon gars, je suis bien bas et abandonné de tous. Tu m'apporteras bien un petit verre de rhum, n'est-ce pas, mon pote ?»« Le docteur, ai-je commencé ?» Il s'est mis à maudire le docteur, d'une voix faible, mais avec véhémence. « Les docteurs, a-t-il dit, c'est des chiffons !»« Ce docteur d'ici, hein, il connaît quoi aux marins ? J'ai été dans des endroits chauds comme c'est pas croyable, où les gars tombaient de la fièvre jaune, et où les tremblements de terre soulevaient le sol comme des vagues. Il les connaît, le docteur ? Les pays comme ça ? Moi, j'y ai survécu grâce au rhum, je te dis. Il a été le manger et le boire pour moi, comme une fiancée. Et maintenant, si je ne peux pas en avoir un petit coup, je suis rien qu'une épave échouée sous le vent. T'auras ma mort sur la conscience, toi et ce chiffon de docteur. » Là, il s'est remis à jurer pendant un bon moment. « Regarde, Jim, mes doigts tremblent » a-t-il continué d'un don suppliant. « Je peux pas les empêcher de bouger. J'en ai pas eu une goutte de toute la satanée journée. Ce docteur est idiot, je te dis. Si j'ai pas une lichette de rhum, Jim, j'aurai mes horreurs. J'en ai vu quelques-unes déjà. J'ai vu le vieux Flint dans ce coin-là, derrière toi. Aussi net qu'une page de livre, je l'ai vu. Si j'ai des visions, alors là... Parce que je suis un homme qui a vécu salement, tu sais, et j'égalerai Caïn. Ton docteur a dit qu'un verre ne me ferait pas de mal. Je te donnerai une guinée en or pour un petit verre, Jim. » Il s'excitait de plus en plus, ce qui m'a inquiété pour mon père. Il était mal ce jour-là et avait bien besoin de calme. En plus, j'ai été rassurée par les propos du docteur qu'il venait de rappeler et plutôt vexée qu'il ait essayé de m'acheter. « Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit, mais plutôt ce que vous devez à mon père. Je vous donnerai un verre, un seul. » Quand je le lui ai rapporté, il l'a pris avec avidité et l'a vidé d'un coup. « Ouais, ça fait sacrément du bien, a-t-il dit. Au fait, mon gars, d'après le docteur, combien de temps que je dois rester au port sur cette vieille couchette ?»«
Une semaine au moins, ai-je répondu. »
« Mais tonnerre, une semaine ! Je peux pas ! Ils m'auront envoyé la tache noire d'ici là ! Les crapules mettent le cap sur moi en ce moment même. Des crapules qui sont pas fichus de garder ce qu'ils ont et qui veulent piquer ce qu'est aux autres. C'est des manières de marin, ça ? Je te demande un peu. Moi, je suis un gars économe. J'ai jamais gâché ma belle argent, ni rien perdu au jeu. Mais je les aurai de nouveau. Je leur lâcherai une autre bordée, mon pote, et je les couillonnerai encore une fois. »
Tout en parlant de la sorte, il s'est levé du lit à grand-peine, en se cramponnant à mon épaule, qu'il a serré si fort que j'en ai presque crié, et en bougeant ses jambes comme si elles étaient mortes. Ses propos animés contrastaient pitoyablement avec la faiblesse de la voix qui les murmurait. Il s'est interrompu quand il est parvenu à s'asseoir sur le bord du lit. « Ce docteur m'a achevé, a-t-il murmuré. J'ai les oreilles qui sifflent. Aide-moi à me recoucher. » Avant que j'aie pu faire grand-chose pour l'aider, il est retombé comme il était avant. Il est demeuré silencieux un moment, puis « Jim, a-t-il dit, tu as vu ce marin aujourd'hui ?»«
Black Dog, ai-je demandé. » « Ah, Black Dog, a-t-il dit. Lui, c'est un salvorien, mais il y a pire, celui qui le pousse. Si je ne peux pas m'en aller tout de suite et qu'ils me font passer la tache noire, rappelle-toi que c'est mon coffre qu'ils veulent. Alors tu prends un cheval, tu sais monter à cheval, non ? Alors tu prends un cheval et tu vas... Eh bien oui, tu vas trouver cet inévitable chiffon de docteur et tu lui dis de rameuter tout le monde, les magistrats et tout, et qu'alors il les coincera à l'amiral Benbow, tout l'équipage du vieux Flint, mousse et matelots, tout ce qu'il en reste. J'étais second, tu vois, second du vieux Flint, j'étais, et je suis le seul qui connaît l'endroit. Il me l'a enseigné à Savannah, alors qu'il était en train de mourir, comme moi maintenant, en quelque sorte. Mais t'iras pas moucharder avant qu'il m'ait passé la tache noire et que t'aies vu de nouveau Black Dog, ou alors un marin avec une seule jambe. Surtout lui, Jim.
C'est quoi cette tache noire, capitaine ? Ai-je demandé.
C'est un coup de semonce, mon gars.
Je te le dirai s'ils me font ça. Mais toi, tu gardes l'œil ouvert, Jim, et je ferai moitié-moitié avec toi, t'as ma parole. »
Il a déliré encore un peu, tandis que sa voix faiblissait, puis après avoir pris ses remèdes, il les a avalés comme un gosse, en remarquant « Si jamais un marin a eu besoin de remèdes, c'est bien moi !» Il a fini par sombrer dans un sommeil profond, quasi comateux. Je l'ai laissé. Ce que j'aurais fait, si tout était allé bien, je ne le sais pas. Je serais sans doute allé raconter l'histoire au docteur, car j'avais terriblement peur que le capitaine regrette sa confession et se débarrasse de moi. Mais il s'est fait que mon pauvre père est mort brutalement ce soir-là, ce qui a relégué les autres soucis au second plan. Notre chagrin, les visites des voisins, les préparatifs des funérailles, le travail de l'auberge qu'il a quand même fallu faire. J'ai été tellement occupée que je n'ai pas eu le temps de penser au capitaine, pas même pour en avoir peur. Il est descendu le lendemain et il a pris ses repas comme d'habitude, même s'il a mangé moins et bu, j'en ai bien peur, plus que sa ration de rhum, parce qu'il s'est servi lui-même au bar, l'air rogue, et en soufflant si fort par le nez que personne n'a osé l'en empêcher. La nuit avant les funérailles, il était saoul, comme toujours. Dans cette maison frappée par le deuil, c'était choquant de l'entendre chanter à tue-tête ces horribles chansons de marin. Mais tout affaibli qu'il était, nous avions encore terriblement peur du capitaine. Et ce, d'autant plus que le docteur, qu'on avait appelé au chevet d'un malade à plusieurs milles de là, n'a pas reparu à la maison après la mort de mon père. J'ai dit que le capitaine était faible, et de fait, il semblait plutôt s'affaiblir que reprendre des forces. Il montait et descendait péniblement l'escalier, allait de la salle au bar et retour, pointait parfois son nez à la porte pour respirer l'air du large. Il se tenait au mur avec la main pour se déplacer et respirait fort comme quelqu'un qui monte une côte raide. Il ne s'est jamais adressé à moi en particulier et je crois qu'il avait oublié ses confidences. Il était toutefois d'humeur encore plus belliqueuse et malgré sa faiblesse physique plus violente que jamais. Il avait désormais une façon inquiétante quand il était saoul de tirer son sabre et de le poser nu sur la table. Malgré cela, il se souciait moins des autres et semblait absorbé dans ses pensées et plutôt absent. Une fois par exemple, à notre grande surprise, il s'est mis à chanter un air galant qu'il devait avoir appris dans sa jeunesse avant de prendre la mer. Les choses se sont passées ainsi jusqu'au lendemain des funérailles, où vers les 3 heures d'une après-midi froide et brumeuse, je me suis trouvée devant la porte un moment. J'étais plein de pensées tristes à propos de mon père quand j'ai vu quelqu'un qui approchait lentement sur la route. De toute évidence, c'était un aveugle, car il frappait le sol devant lui avec un bâton et portait un large bandeau vert devant les yeux et le nez. Il était voûté par l'âge ou la faiblesse de sa constitution et portait un vieux caban rapiécé, beaucoup trop grand, avec une capuche qui le faisait paraître bossu. De ma vie, je n'avais vu pareille figure de cauchemar. Il s'est arrêté non loin de l'auberge et, comme s'il se mettait à chanter, s'est adressé à l'air devant lui.
« Quelqu'un fera-t-il l'amitié à un pauvre aveugle qui a perdu ce bien précieux qu'elle a vu en défendant son pays natal, l'Angleterre ? Dieu protège le roi Georges de lui dire où et quand et dans quelle partie de ce pays il se trouve à présent.
Vous êtes à l'amiral Benbow, brave homme, ai-je dit. Dans la baie de Black Hill.
J'entends une voix, a-t-il repris, une voix jeune. Veux-tu bien me donner la main, mon jeune ami, et me conduire à l'intérieur ?
J'ai tendu la main. Cette horrible créature sans regard, à la voix doucereuse, l'a instantanément agrippée comme dans un étau. J'ai été tellement surpris que je me suis efforcé de la retirer, mais l'aveugle m'a attiré tout près de lui en repliant le bras.
Maintenant, mon garçon, conduis-moi au capitaine.
« Monsieur, ai-je répondu, ma parole, je n'ose pas. »«
Oh ! » a-t-il dit en ricanant, « tu me mènes tout droit à là où je te brise le bras. »
Et tout en parlant, il l'a tordu si fort que j'ai crié.
« Monsieur, ai-je dit, c'est pour vous que je parlais. Le capitaine n'est plus ce qu'il était. Il s'assied avec son sabre dégainé. Un autre monsieur.
« Allez, marche » m'a-t-il ordonné.
Je n'ai jamais entendu voix plus cruelle, plus froide et plus laide que celle de cet aveugle. Elle m'a impressionnée plus que la douleur, et j'ai obéi aussitôt. J'ai passé la porte et marché tout droit vers la salle où notre vieux boucanier était assis, assommé par le rhum. L'aveugle se cramponnait à moi, me tenant d'une main de fer et pesant sur moi à la limite de mes forces.
« Conduis-moi, lui, dès qu'il pourra m'apercevoir, crie « Voici un de tes amis, Bill !»«
Sinon, je te fais ça !» Il m'a de nouveau tordu le bras, si fort que j'ai cru m'évanouir, de sorte que j'étais tellement terrifiée par l'aveugle que j'en ai oublié ma peur du capitaine. J'ai ouvert la porte de la salle et d'une voix tremblante, j'ai crié les mots qu'on m'avait ordonné de dire. Le pauvre capitaine a levé les yeux. En un clin d'œil, les effets du rhum se sont dissipés et il est resté pétrifié et dégrisé. Son visage n'exprimait pas tant de terreur qu'un malaise mortel. Il a fait mine de se mettre debout, mais je ne pense pas qu'il en avait encore la force.
« Allons, Bill, reste assis où tu es. Je ne vois pas, mais j'entends un petit doigt qui bouge.
Les affaires, c'est les affaires. Toi, mon garçon, prends-lui le poignet gauche et approche sa main de ma main droite. » Nous avons obéi à la lettre, tous les deux, et j'ai vu quelque chose passer de la paume de la main avec laquelle il tenait son bâton dans celle du capitaine qui s'est empressé de replier les doigts.
« Et maintenant que c'est fait ?» a dit l'aveugle.
À ces mots, il m'a lâché brusquement et avec une précision et une agilité incroyables, il a quitté la salle pour regagner la route. Ou alors que j'étais restée sur place sans bouger, j'ai pu entendre le tip-tap de son bâton qui s'éloignait. Il nous a fallu un moment au capitaine et à moi pour reprendre nos esprits. Mais finalement, presque au même moment, j'ai relâché son poignet que je tenais toujours et il a ouvert sa main et regardé anxieusement dans sa paume.
« À 10 heures » s'est-il écrié. « Encore 6 heures, on les aura !»
Et il s'est mis brusquement sur ses pieds. En même temps, il a titubé, a porté une main à sa gorge et resté un moment à se balancer, puis, avec un bruit très particulier, il est tombé de toute sa hauteur, le visage contre le plancher. Je me suis précipité en appelant ma mère, mais toute hâte était inutile. Le capitaine avait été tué net par une crise foudroyante d'apoplexie. C'est une chose curieuse à comprendre, car je ne l'avais jamais, jamais aimé, même si sur la fin, je m'étais mise à le plaindre. Mais dès que j'ai vu qu'il était mort, j'ai fondu en larmes. C'était la seconde mort dans mon entourage, et le chagrin que m'avait causé la première était encore frais.